podcast, la première.
Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, je vous aime.
Parlez-moi d'amour, une émission de Gabriel Stefanski, sur la première, tous les samedis.
Quand les mots font l'amour. Et feuillage de quelques pages, pas toujours sages.
L'appétit sexuel viendrait-il en voyageant ? La réponse figure évidemment dans le dernier recueil publié par les éditions Blanches, un ouvrage collectif réalisé par 18 femmes et intitulé « Transport de femmes ». Du désir et de l'instinct érotique comme ingrédients qui transforment parfois les situations les plus banales en plongées dans l'univers étourdissant du plaisir, grâce à la complicité technique de Pascal Vossen et à Sophie Cadalen et Isabelle Lorettan.
You before.
Sophie Cadalen est psychanalyste, spécialiste du couple, auteure de plusieurs ouvrages sur le désir ou les fantasmes. Elle a aussi écrit et interprété une pièce de théâtre, Tu m'aimes comment ? Fidèle aux éditions Blanche, Sophie Cadalen érotise, dans le dernier recueil paru, un univers morne et quotidien, celui des transports en commun. Enfin, on sent des transports, des impatiences et souvent des désirs. Cette phrase monopolisait son esprit, l'empêchant d'ouvrir son livre qu'automatiquement, à peine assise dans le métro, elle avait extrait de son sac. Elle sortait de l'atelier théâtral du lycée où elle enseignait depuis 20 ans, atelier qu'elle animait depuis bien trop longtemps, se disait-elle à chaque fin d'année, avant de rempiler pour la rentrée suivante. Au programme, Arlequin poli par l'amour, façon de les initier aux belles lettres par le jeu qu'ils jouent si maladroitement à leur âge de la séduction. Cette phrase qui l'obsédait avait été particulièrement éreintée par la jeune fille qui interprétait la fée. Le sentir, les impatiences, la volupté du mot désir étaient passés à la trappe d'une diction boudeuse et d'un débit monocorde. Est-ce pour cela qu'elle l'avait emmenée, qu'elle la disait et redisait en pensée, qu'elle en éprouvait le velours ? Ou parce qu'elle était dans ce transport en commun qui n'incitait pas au désir, mais à la patience, si, souvent. En ruminant tendrement les mots de Marivaux, elle se moquait d'elle-même, vieille bête fatiguée, selon son expression habituelle, que l'évocation littéraire de ses émois continuait de chavirer quand son corps ne pratiquait plus l'amour depuis 10 ans, 15 ans. Voilà plus longtemps encore que les livres étaient ses amants réguliers, et il l'avait davantage emporté, transporté, que les caresses expéditives ou malhabiles de ses amants en vrai. Tellement d'écrivains l'avaient mouillée, elle n'avait plus grand-chose à faire pour exploser ensuite, plus effrontément que le meilleur des partenaires. Aujourd'hui, elle ne trouvait plus d'intérêt aux hommes si peureux, si puérils, si ridicules souvent. Ceux qu'elle vénérait étaient des monstres de la littérature largement morts et enterrés. Elle ne redoutait plus leur humanité trop étriquée et pouvait adorer leurs verbes, parfois licencieux. Une étrange insistance finit par déranger sa rêverie, la ramenant à ce « ici et maintenant » dont elle s'était évadée. Un jeune homme assis à quelques mètres la regardait fixement. Elle faillit sourire comme un réflexe, celui de la prof que des inconnus, quelquefois si vieux, arrêtent dans la rue parce qu'elle leur a enseigné le français quand ils avaient 12 ans. Il est trop jeune pour être un ancien élève. Elle se souviendrait de lui si elle l'avait ou l'avait eu récemment en classe. Elle vérifie rapidement si un détail de sa tenue justifierait la fascination qu'elle semble inspirer. Pourquoi la regarde-t-il ainsi ? Il n'a pas l'air fou, il dégage même une certaine intelligence qui, si elle était encore sur le marché, encore une de ces formules qui font bondir ses copines, la toucherait sûrement. Mais cela fait longtemps qu'elle s'est appliquée à disparaître derrière l'apparence terne et vieillotte d'une fonctionnaire entre deux âges. Peut-être que le jeune homme a le don de lire dans les pensées que les mots de Marivaux l'ont capturé à son tour. Elle méprise trop le genre humain quand il n'est pas littéraire pour lui prêter de tels pouvoirs. Et pourtant cette phrase qui, autoritaire, s'impose de nouveau quand elle croise son regard. Enfin, on sent des transports, des impatiences et souvent des désirs. C'est ce qu'elle lit dans ses yeux dont elle n'a pu soutenir l'intensité. Des impatiences et des désirs. Désir d'elle ? Oui, elle se sent désirée. Elle est sûre de l'être comme jamais depuis qu'elle est jeune fille, elle ne l'a été. Le jeune homme est plutôt beau, d'une beauté rugueuse, animale. Il ne peut raisonnablement s'intéresser à une bonne femme au teint gris, au cerne prononcé et au corps tassé, dépourvu de cette vitalité inquiétante qui de lui déborde. Plus stupide encore est cette chaleur qui irradie sa vulve et annonce la possibilité d'un orgasme imminent. Une chaleur que seuls les livres qui la possèdent font naître. Jusqu'à cet instant, elle ne parvient pas à douter de son acuité et ne comprend rien à ce qui est en train de se passer, à l'état dans lequel cette bizarrerie la met. Heureusement, les transports ont leur arrêt et leur changement. Elle descend à cette station pour continuer dans une autre direction. Elle se lève et peine à retrouver son équilibre, pas tout à fait sûre que cela soit dû au soubresaut du métro. Elle évite consciencieusement le jeune homme en lui tournant le dos, quitte la rame et s'échappe de cette situation décidément ridicule. Même s'il lui dit au revoir d'un dernier regard l'attente et lui tord les tripes.
Lay your head where my heart used to be. On the earth above me, laid down in the green grass. Remember when you loved me. Come closer, don't be shy. Stand beneath the rainy sky. The moon is over the of me as a train goes by, clear the thistles and brambles, whisper didn't he ramble, now there's a bubble of me, and it's flow. Took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. He'd never be free of me. He'll make a tree from me. Don't say goodbye to me. Describe the sky. Thank you.
La voilà sur le quai et gaillardement elle reprend son trajet coutumier, comme sa vie dont en quelques secondes elle a cru perdre le fil. Souriante et les yeux brillants, elle parcourt la distance qu'elle n'a plus besoin de penser d'un métro à l'autre. N'étant plus menacée par la réalité du bel inconnu, elle est libre de savourer l'aventure. Sans pudeur, elle écrit en pensée l'histoire d'une rencontre improbable entre une femme usée qui retrouverait l'éclat de sa féminité et un garçon que cette collusion hisserait au rang d'homme. Elle ne manque pas d'audace quand il s'agit de plier la vie aux contraintes d'une narration efficace. Elle ne recule devant aucune provocation pour retenir le lecteur qui ne lira jamais ce qu'elle ne couchera sur aucune feuille. Cela l'occupe bien si elle lui suffit. Ils sont au bord de conclure dans sa tête, et le square dans lequel ils se sont croisés, elle trouve le métro trop sordide et son décor déjà usé par tant de récits, quand une main lui attrape l'épaule et l'arrête nez. La vigueur de l'emprise la fait virevolter, l'obligeant à affronter le goujat qui ose interrompre ses élucubrations. C'est l'inconnu qui, à quelques centimètres d'elle, le corps fin et long qui la domine, lui souffle précipitamment. T'es bonne. Elle voudrait prendre son air supérieur d'un tello que rien ne peut choquer, lui faire répéter ces deux syllabes pour en souligner l'indigence, la banalité grossière. Elle voudrait, comme une pensée fulgurante qu'elle est incapable de saisir et d'appliquer, et veut de toute sa chair qu'il l'embrasse. Ce « t'es bonne » l'a cogné comme un uppercut. Il lui a coupé le souffle, embrasé le ventre, ouvert le sexe dont elle croit entendre les palpitations humides. Elle est sans voix, sans force. Son regard à lui est méchant, obscurci par une tension douloureuse, un ordre ou une supplique à être libérée de cette suspension. Elle voudrait lui rire au nez, le mépriser, l'insulter. Elle veut seulement qu'il la prenne, immédiatement. Ses mots barbares l'ont fendue pour qu'il la pénètre sur le champ, qu'il remplisse cette vacuité dont aucune lecture ne pourrait la divertir. Il a tout balancé dans ce « t'es bonne ». Et Marivaux et ses transports ont été balayés par cette fureur. Il est en arrêt, incapable, elle le sent, d'aucune initiative, tellement il l'attend. Elle le prend par la main et s'enfonce avec lui dans les détails des couloirs. Il cherche une porte dérobée, un recoin discret, un endroit où exulter sans être dérangé, cette urgence à jouir l'un de l'autre. Elle vacille soudain, un orgasme la saisit en pleine course. Elle gémit dans sa main qu'elle a collée sur sa bouche pour retenir le hurlement de son corps. Si elle ne la tenait, elle tomberait. Rien n'avait annoncé cette vague qui l'a fauchée. Il tremble à ses côtés. Leurs mains qui s'agrippent, leur seul contact, sont agitées de spasmes. Elle rouvre les yeux pour lire sur son visage ce qu'elle sait déjà. Il a joui avec elle. Il s'est envolé en route, lui aussi stoppé et accroché à elle. Ils sont au milieu du flot de voyageurs qui circulent en double sens, trop pressés de rentrer pour s'inquiéter de ce couple essoufflé, une mère et son fils, tous les deux comme ahuris de leur présence ici. Elle ne sait pas combien de minutes ils sont restés main dans la main, immobiles au cœur de ces va-et-vient. Ils n'osaient se regarder, ne le souhaitaient pas en fait. Chacun savourait l'instant, chacun écoutait et goûtait les dernières ruades d'une jouissance peu pressée de s'estomper. Ils avaient été au bout de leur envie, au bout du chemin qu'ils pouvaient faire ensemble. Elle en était certaine et n'en ressentait aucune frustration, oh non. Elle devinait qu'ils étaient d'accord, qu'il n'était pas question de discuter, d'échanger des noms, des numéros de téléphone. S'ils y avaient pensé, c'était pour en repousser aussitôt l'éventualité et ne pas gâcher le merveilleux de cet instant. Imperceptiblement, leurs mains se lâchèrent, leurs doigts glissèrent tendrement jusqu'à se perdre. Sans se concerter, ils prirent une direction opposée, se laissant embarquer par les flux continus qui les étreignaient. Ils esquissèrent un léger sourire à l'attention l'un de l'autre, sans se retourner, trop timides pour affronter l'apprêt de cet égarement, trop appliqués à le déguster. Un égarement qui lui laissait l'impression de s'être retrouvée, grâce auquel elle allait peut-être s'affranchir des bouquins qui l'avaient charmée. Quand la vie qui se vit, avant d'avoir eu le temps d'être écrite, était si belle aussi, si dense. Enfin, on sent des transports, des impatiences et souvent des désirs. Oh oui, comme elle les sentait, ces transports, et une impatience sourde de se laisser surprendre par d'autres désirs.
Depuis votre départ, aucune nouvelle de vous. Je récidive, je m'égare en vous cherchant partout. Sans rien attendre, j'attends surtout un signe de vous. Vous avez droit à tous mes égards, est-ce l'amour fou? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Où êtes-vous quand je rêve à vous, réel et flou? Sans rien prononcer, je vous parle. M'entendez-vous? Je m'ennuie de ce doux regard par-dessus tout. Et cette odeur de voleur de rose dans votre cou. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Cette ville où il se fait tard, je pense à vous. La rue est dans un blafard, que faites-vous? Une voiture éteint ses phares. Oh, quand tout à coup vous êtes là, suis-je en retard? Mais que dites-vous? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Ne connaît pas grand-chose d'Isabelle Laurédan. La quarantaine, mère de famille, elle aime à sillonner par l'écriture les chemins tortueux et fantasmatiques du plaisir charnel. Elle s'est vue publier une nouvelle dans l'opus Folie de femme chez Blanche en 2010 et à la Musardine, elle a participé au recueil 20 histoires d'infidélité. Voici relaté un ardent transport amoureux avec l'héroïne délicieuse d'Isabelle Laurédan. Ce jour-là, je flânais sans but véritable, profitant de la douce chaleur du soleil. Mes pas m'avaient conduite dans le quartier des bouquinistes, et c'est avec délectation que je fouillais les bacs à la recherche de trésors cachés. Il arrive parfois que l'on y fasse de jolies découvertes. Je ne cherchais rien de précis, me laissant plutôt porter par le hasard. C'est alors que je l'aperçus à un étal voisin, droite et fière dans sa robe d'été. le tissu souple du vêtement épousait parfaitement des formes que l'on devinait généreuses. Une friandise, une délicieuse friandise, c'est la première idée qui m'était venue à l'esprit en la voyant. Une peau veloutée, délicieusement hâlée, qui évoquait une pêche mûre et donnait envie d'y croquer à pleines dents, d'en savourer la chair que j'imaginais sucrée. Un coup de vent fit virevolter la corolle de sa robe, découvrant des jambes fines et bronzées. Son rire cristallin retentit tandis qu'elle s'employait à dompter l'étoffe facétieuse sans laisser paraître la moindre gêne. Tout en elle, au contraire, respirait l'insolence propre à son âge. Elle était très jeune, 18 ou peut-être 20 ans, mais guère plus, l'âge où l'on croit avoir le monde à ses pieds. Étrangement, elle ressemblait à l'héroïne de l'histoire que j'étais en train d'écrire. Quoi de plus troublant lorsque l'on a créé un personnage de toute pièce que de se trouver face à lui au détour d'une rue? La veille, j'aurais ri aux éclats devant un tel scénario et pourtant, une bouffée de chaleur m'envahit en imaginant que la ressemblance n'était peut-être pas seulement physique. Il me revint en mémoire mes dernières lignes écrites, celles qui avaient semé une telle émotion en moi que j'avais dû marquer une pause d'écriture. Décidément, mon imagination me jouait des tours. « Ma pauvre fille redescend sur terre, me dis-je. » J'essayais de me replonger dans les livres, le cœur battant à tout rompre. Mais alors que je prenais un volume de Colette, une main effleura la mienne dans le bac. C'était elle. Je le sentis avant même que de lever les yeux. Mon intuition ne m'avait pas trompée. Un délicieux parfum de vanille flottait dans l'air. La friandise se tenait en effet face à moi, de l'autre côté du bac de livres. Avez-vous déjà lu celui-ci ? Me demanda-t-elle. L'intonation me surprit, je ne m'attendais pas à un timbre aussi grave chez une fille de cet âge. Grave et un peu rauque, ce qui créait un contraste singulier avec ce qu'elle était et renforçait encore mon trouble. Je me lançai aussitôt dans un historique de l'œuvre de Colette que je connaissais bien, expliquant en quelles circonstances l'ouvrage avait été écrit, tout en me trouvant ridicule d'étaler ainsi des connaissances que l'on ne m'avait pas demandées. Pourquoi n'étais-je pas capable de répondre oui ou non pour faire durer ce moment? Peut-être, sans doute même, avec le recul, j'en suis aujourd'hui persuadée. Lorsque j'eus terminé, essoufflée de ma diatribe, elle me demanda soudain quel œil je portais sur la relation de l'auteur et de Missy. Mes jambes se dérobaient sous moi, la sueur coulait le long de mon dos. Ça n'était pas possible, cette gamine m'interrogeait sur une relation lesbienne comme ça en pleine rue. Inconsciente ou alors au contraire décidée à m'amener sur un terrain beaucoup plus frivole que littéraire. « Et si nous discutions de cela autour d'un café, » dit-elle, « je vous invite, vous semblez incommodée par la chaleur, je me trompe. » Elle m'offrait là une remarquable occasion de me ressaisir ou du moins de justifier mon trouble sans être le moins du monde dupe de quoi que ce soit. J'acceptai et nous allâmes nous attabler en terrasse à la brasserie la plus proche. Ce moment, installée en bord de terrasse, j'eus la sensation de ne plus rien contrôler. Cette fille avait un charisme hors du commun, et bien que son aînée d'une bonne quinzaine d'années, je me laissais mener sans pouvoir réagir. Ça ne me correspondait pas, d'ordinaire je suis plutôt du genre dirigiste. Une gorgée de café brûlant et amer me fit du bien. « Si nous reprenions notre conversation où nous l'avons laissée, suggéra-t-elle. » Vous savez, aujourd'hui, on ne porterait plus le même jugement qu'à cette époque sur la liaison des deux femmes. C'est beaucoup mieux accepté par la société. Et voilà qu'elle m'expliquait l'évolution des mœurs, alors qu'elle était encore au berceau lorsque j'avais eu mon premier amant. Le monde à l'envers. Merci pour la précision, mais je ne suis pas centenaire et ne vis pas coupée du monde. Peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter, je ne connais même pas votre nom. Elle me regarda, l'œil peiné et la lèvre boudeuse, comme une gamine prise en faute. « Je m'appelle Lola. J'ai été maladroite. Mon intention n'était pas de vous blesser, bien au contraire. Décidément, je n'en rate pas une. Comment puis-je me faire pardonner ?» Elle avait perdu toute assurance et la fragilité qui se dégageait d'elle avait quelque chose d'enfantin. Je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras, lui caresser doucement les cheveux en lui disant « Là, là, ça va aller, calme-toi. » La dorloter, la bercer comme on le ferait d'un nourrisson apeuré. « Ce n'est pas grave, j'ai moi aussi été stupide d'une certaine façon. Et si, pour vous faire pardonner, nous passions l'après-midi ensemble, qu'en dites-vous » Un sourire magnifique illumina son visage en signe d'acceptation. Le malentendu était levé à notre grand soulagement. J'étais envoûtée par son parfum, mais aussi par son être, tellement forte et toutefois si fragile. Au moment de le revoir, c'est elle qui brusqua les choses. Intentionnellement ou pas, je ne le sais pas, ses lèvres se posèrent juste à la commissure des miennes plutôt que sur ma joue. C'en fut assez pour enflammer mes sens. Dieu, que j'avais envie de cette fille, de sentir son corps palpiter sous mes mains, son souffle tiède dans mon cou, sa bouche gourmande me grignoter par petites bouchées. Je la pris par la main et l'entraînai chez moi. Juste le temps de repousser la porte que Lola se levait dans mes bras comme un petit animal à la recherche de caresses. Je passai doucement ma main dans ses cheveux soyeux, descendant lentement vers l'ourlet de l'oreille, puis vers la nuque gracieuse. Je sentis sa peau frémir sous mes doigts, tandis que sa bouche cherchait la mienne dans un élan affamé. Je ne m'étais pas trompée, elle avait bien un goût sucré dont je me délectais. À petits coups de langue, je dégustais ses lèvres, sa bouche gourmande, sa peau de bébé. Elle fondait dans mes bras, gémissant faiblement, consentant au possible à tout ce que je pourrais lui demander. Je fis descendre les bretelles de sa robe qui tomba à ses pieds comme une fleur épanouie. Son épiderme se hérissa des frissons d'une envie trop longtemps contenue. Le fin tissu de sa culotte blanche dénonçait un émoi évident, auréolé qu'il était d'une rosée des plus prometteuses. « Suis-moi, mon amour, ma petite, ma toute petite chérie. Je te veux à moi maintenant. Je veux t'aimer jusqu'à plus soif, te faire chavirer de plaisir. » Ce disant, je l'emmenai à la chambre et l'allongai sur le lit moelleux. Son corps bronzé faisait une tache sur la blancheur du couvre-lit. Elle avait fermé les yeux dans un abandon total et ne s'exprimait plus que par gestes. Sa main prit la mienne pour la poser sur ses lèvres. De la pointe de la langue, elle lécha mes doigts, comme si elle dégustait les mets les plus fins, puis remonta sur mon poignet, le creux de mon coude. En arrivant à mon cou, elle me glissa à l'oreille dans un souffle « Je t'appartiens ». Quel aveu, quelle promesse enchanteresse que ces trois mots.
Entre elle et moi, le temps n'existe pas. Sous les lignes et les mots, doucement, je me suis glissé dans sa peau. Entre elle et moi, c'est l'envers à l'endroit. Deux miroirs qui face à face nous envoient une image où le temps s'efface. C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on croit. Mais pour moi, c'est une histoire qui se joue entre nous. Un regard qu'ensemble on pose sur la vie, sur les choses. Entre elle et moi, irrésistiblement, est né un sentiment auquel, je l'avoue, je ne m'attendais pas. Ah, ah, entraînez-moi, ne me demandez pas. Titiana ou Lélia, laquelle des deux était-elle ou était-moi? C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on croit. De loue-moi, c'est une histoire qui se fout des tabous, de tous les interdits. Une histoire qui donne envie d'aller jusqu'au bout.
Je m'enivrais des fragrances de sa peau, effleurant par petites touches subtiles son corps offert. Je définis lentement sa géographie, commençant par lui retirer ses sandales. Je caressais ses pieds, ses chevilles, amoureusement. J'avais faim d'elle et me laissais aller à la déguster. Les mollets d'abord, alternant les picorements aux baisers de feu, puis le creux des genoux. Cette partie m'émouvait particulièrement, la peau y était plus tendre qu'ailleurs, plus sensible aussi. Chaque passage de mes lèvres la faisait se tordre en gémissant de plus en plus fort. Son souffle devenait de plus en plus court, elle n'était plus qu'une braise entre mes bras, et j'aimais la toute-puissance que cela me conférait. J'étais entièrement maîtresse de ses désirs, de ses plaisirs, et cela me grisait formidablement. Lola s'impatientait, soupirant et ruant à la recherche de mes mains, de ma bouche. « Viens, je t'en prie, ne me laisse pas dans cet état. Baise-moi, comble-moi, tue-moi de plaisir, mais abrège mes souffrances, » murmurait-elle faiblement. Mais je savais que l'attente rendrait les choses bien meilleures, qu'une fois tous ses sens exacerbés, elle n'en jouirait que plus fort. « Chut, laisse-toi faire, ouvre-toi, offre-toi encore et encore. Je te veux pantelante, délirante. Nous avons tout notre temps, pourquoi se presser ?» Je remontai jusqu'à ses seins. Les tétons saillaient comme de grosses framboises mûres à souhait, prêtes à éclater sous des dents gourmandes. Du bout des lèvres, je les goûtais, appréciant chaque millimètre carré. La saveur en était plus musquée, sans doute renforcée par celle de son désir croissant, mêlée d'effluves de vanille qui me semblèrent à ce moment-là beaucoup plus épicées. « Tu es un dessert, un somptueux dessert gourmand, Lola, » dis-je en aspirant entre mes lèvres les tendres pointes érigées, en roulant ma langue autour d'elle. Ses mains agrippèrent mes cheveux convulsivement, tandis que son corps tout entier se tendait contre moi, faisant encore croître mon désir d'elle. Je n'avais jamais soupçonné que l'on puisse avoir une telle envie de l'autre jusqu'à ce jour, et ce que je découvrais me ravissait. Le nez enfoui dans sa chevelure, je léchais maintenant son front, ses paupières, mordillais le lobe tendre de l'oreille, le cou que dégageait sa tête renversée sur l'oreiller. Tu es belle, ma douce, tu me rends folle. Ma phrase mourut sur mes lèvres lorsque sa langue vint à la rencontre de la mienne, se nouant comme une liane douce et chaude, me faisant totalement fondre. N'y tenant plus, je laissai descendre ma bouche sur son ventre, jouant de la pointe de la langue sur son mignon petit nombril. Mes doigts fourragèrent dans la douce toison bouclée de son pubis tendu, suivirent le sillon de laine pour arriver devant un tableau qui m'émut aux larmes. Devant mes yeux amoureux s'ouvrait la vallée des merveilles. Dans une béance indécente, des larmes de bonheur perlaient à la nacre de ses chairs. Son sexe palpitant pleurait son désir de moi, me bouleversait totalement. Comment résister plus longtemps à un tel spectacle? Je ne le pus. Je lapai du bout de la langue les tendres lèvres, descendis au sillon merveilleux de son cul, remontai jusqu'au bourgeon tendre de la fleur épanouie, savourai les sucs que je recueillis précieusement comme la plus rare des offrandes. Mes mains empaumèrent ses seins, les griffant doucement pour mieux les caresser ensuite. Elle tangua, chaloupa contre moi, pressant son pubis fiévreux contre mes lèvres. Sa voix rauque m'appelait, me suppliait dans une incantation païenne délicieuse de lubricité. « Je suis à toi, bois-moi, mange-moi, digère-moi, je brûle, je meurs, je renais sous tes doigts, sous tes lèvres. » Splendide dans son abandon, les yeux voilés du plaisir reçu, elle s'évanouit de bonheur contre moi, frissonnante, le corps secoué de spasmes durant un long moment. Je léchais tendrement les traînées salées laissées par ses larmes sur le velours de ses joues. Je l'enveloppai de ma tendresse, reconnaissante du merveilleux cadeau qu'elle m'avait offert. Je sus à ce moment-là que je n'accepterais pas de la perdre. Après l'avoir rêvé, imaginé au fil des pages, j'avais enfin trouvé mon héroïne de chair et de sang, et elle était pelotonnée tout contre moi, palpitante du plaisir que je lui avais offert. Était-ce mon imagination qui l'avait fait surgir de son royaume de papier, ou un fabuleux hasard qui lui avait fait croiser mon chemin? Je ne le saurais probablement jamais, et de toute façon, quelle importance! Parlez-moi d'amour, c'est ici la fin du parcours. Parlez-moi d'amour est une émission de Gabriel Stefanski et une production La Première. www.lapremiere.be est l'adresse du site à consulter si vous voulez vous tenir informé. Parlez-moi d'amour vous y invite à ouvrir ses pages et à y déposer vos messages. Que votre nuit soit scandaleusement amoureuse, à vos fantasmes et à samedi.
Je vous aime.
Auf Wiedersehen. Au revoir, Marius.
Retrouvez Parlez-moi d'amour le samedi entre 22h et minuit.
La première.